Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement prépare ses prochaines mesures sanitaires. Un conseil de défense a lieu ce matin sur le sujet, alors que l'exécutif craint l'impact des fêtes de fin d'année sur les futurs chiffres de la contamination. Par ailleurs, la stratégie actuelle de reconfinement pourrait bien peser à long terme sur la croissance. Selon l'économiste Philippe Aguillon, nous l'entendrons. Dans ce journal également, retour sur la libération de la parole des victimes d'inceste. Après les révélations de Camille Kouchner sur les agissements de son beau-père dans un livre. Et puis l'Iran s'en prend à la Corée du Sud. Téhéran bloque un pétrolier sud-coréen en attendant de récupérer des fonds bloqués à Séoul. Un conseil de défense sanitaire avant demain une conférence de presse à Matignon. Le tout pour déterminer les nouvelles règles sanitaires à suivre dans les semaines qui viennent. Dans un contexte de vives critiques contre le gouvernement, à cause notamment d'une campagne de vaccination dont les débuts sont chaotiques. La pandémie de Covid-19 continue de dicter l'agenda de l'exécutif qui va devoir se prononcer officiellement sur la réouverture des cafés-restaurants, des salles de sport ou des salles de spectacle. En ce qui concerne le couvre-feu, il devra préciser quel département pourrait adopter la version plus stricte à 18h. Le gouvernement, qui tente d'évaluer l'incidence qu'ont eu les fêtes de fin d'année sur le niveau des contaminations, le nombre de cas semble augmenter si l'on en croit les chiffres de Santé publique France. Mais pour les spécialistes, Véronique Julia, il est trop tôt pour savoir quel a été l'effet réel de ces rassemblements.
Il y a Noël bien sûr, mais Noël était-il le moment le plus redouté? Pas forcément, car Noël c'est familial, on veut protéger ses parents, ses grands-parents. Beaucoup de Français ont pu renoncer aux réunions familiales, d'autres se sont fait tester avant. Et l'exemple américain de Thanksgiving a sans doute servi d'alerte, on a peut-être été plus vigilant. Ce qui inquiète le plus, c'est le 31, car c'est plus jeune, plus festif. Et puis il y a l'entre-deux. On réveillonne le 24, mais on reste en famille le 25, le 26, le 27, le 28. Pour toutes ces raisons, il faut sans doute attendre encore quelques jours, d'autant qu'il faut raisonner aussi en chaîne de transmission. À Noël, l'enfant peut contaminer le père, qui sera asymptomatique et qui peut contaminer ensuite le grand-père plus vulnérable, qui fera lui une forme sévère. Il faut donc même plus de 15 jours pour que la chaîne se traduise en chiffres. Ce qui est sûr, c'est que le flux reste soutenu à l'hôpital sur un plateau élevé et que pas mal de questions restent en suspens. Quel effet aura eu le maintien du couvre-feu? Quel effet peut avoir l'introduction du variant britannique en France? Enfin, dans quelle mesure les congés et les vacances scolaires qui réduisent les contaminations extra-familiales auront-ils compensé l'impact des réunions de famille, du froid et des voyages à travers la France?
En tout état de cause, les bars et restaurants ne devraient pas rouvrir avant la fin du mois, voire bien plus tard. Jean Castex devrait le confirmer demain. Un secteur économique qui va donc continuer de souffrir. Les prévisions pour l'économie française estiment déjà que la récession en 2021 devrait avoisiner les 10% sans pour l'instant de signes positifs quant au retour de la croissance. Une situation due, selon l'économiste Philippe Aguillon, en grande partie à l'alternance de confinement et de déconfinement qui empêche d'avoir une vision à long terme. Il était hier l'invité du journal de 22h de Stanislas Vazak.
Tout le problème, c'est d'essayer d'éviter la troisième vague. Donc là, il y a un peu une course. C'est évident que si vous déconfinez, vous augmentez les chances d'une troisième vague, notamment avec cette mutation du virus qui nous vient de Grande-Bretagne, qui est beaucoup plus contagieux que sa version précédente. Donc, alors évidemment, il y a d'un autre côté le vaccin, d'où l'importance que ça évite sur la vaccination. Mais vous voyez, là, c'est un peu une course, parce que évidemment, si on a une troisième vague, ça veut dire qu'il va falloir reconfiner. Vous voyez que les Anglais déjà confinent. C'est très possible qu'on soit amené à le faire, nous, dans deux semaines, j'en sais rien. Et évidemment, tant qu'on est dans une politique où on confine et on déconfine, on ne peut pas vraiment faire repartir l'économie parce que les entreprises ne vont pas planifier sur le long terme. Elles ne vont pas investir dans la recherche-développement, elles ne vont pas investir dans des emplois de long terme. Elles vont gérer la survie et accumuler des liquidités pour faire face au prochain confinement, dont on ne sait jamais quelle est la durée du prochain confinement et déconfinement. Donc c'est ça le drame du stop and go, c'est que ça empêche de planifier à long terme, ça empêche les entreprises d'investir dans la croissance, elles gèrent la survie. Or évidemment, plus vite on vaccine, plus vite on sort du stop and go, puisque évidemment, ce qui va vraiment nous sortir de la pandémie, c'est le vaccin.
L'économiste Philippe Aguillon. Le politologue Olivier Duhamel est visé depuis hier par une enquête enquête pour viol et agression sexuelle ouverte par le parquet de Paris. Les suites, évidemment, de la publication d'extraits du livre de Camille Kouchner dans la presse. Cet ouvrage, Familia Grande, sort demain et révèle que son beau-père, Olivier Duhamel, donc, a violé son frère jumeau à la fin des années 80. Une révélation qui ravive le souvenir d'une autre révélation dans un autre ouvrage paru il y a un an, celui de Vanessa Springora, Le consentement, qui dénonçait l'emprise de l'écrivain Gabriel Matzneff sur celle qui n'était alors qu'une adolescente. Les témoignages pour briser le silence autour de l'inceste ou de la pédocriminalité se multiplient et cela crée un contexte favorable à la parole des victimes. C'est ce que pense en tout cas la journaliste Charlotte Pudlowski qui a sorti un podcast en septembre dernier, podcast intitulé « Ou peut-être une nuit » qui raconte l'inceste dont sa mère a été victime. Écoutez-la, interrogée par Maïwenn Bordron.
Ça montre qu'il est possible de parler, ça montre à toutes les victimes qu'elles ne sont pas seules et qu'elles ont le droit de parler et qu'elles peuvent être entendues. Donc je pense que toutes ces affaires-là, il n'y en a aucune qui seule peut détruire le patriarcat, mais en revanche, chacune permet aux autres œuvres derrière d'exister. C'est-à-dire que moi, j'aurais jamais fait, ou peut-être une nuit, je pense, s'il n'y avait pas eu le mouvement MeToo et l'affaire Weinstein, qui m'a permis de réfléchir de manière plus approfondie et plus aiguë aux violences subies par les femmes et aux mécaniques du silence. Le livre de Vanessa Springora, il me semble l'avoir entendu dire ça aussi en interview, il vient aussi de cette libération plus globale de la parole. Adèle Haenel, elle l'a dit aussi en interview. C'est parce qu'il y avait tous ces enjeux politiques débattus dans les médias qu'elle a davantage pris conscience, et parce qu'il y a eu aussi, je crois, ce documentaire sur Michael Jackson, il me semble que ça a joué aussi dans sa volonté de parler, de prendre la parole. Donc chaque œuvre et chaque prise de parole en autorise d'autres et permet à d'autres d'émerger. Et donc c'est une espèce de chaîne collective, et je pense que c'est très propre à ces sujets-là et au silence globalement. C'est-à-dire que c'est une chaîne qui doit toujours être entretenue.
Charlotte Pudlowski, dont vous pouvez retrouver l'entretien sur notre site franceculture.fr. Une frappe de l'armée française aurait fait plusieurs dizaines de morts dimanche dans le centre du Mali. Selon les militaires, il s'agit d'une opération visant des djihadistes, mais d'après des sources locales, médicales notamment, cette frappe aurait fait des victimes civiles, dont plusieurs enfants. Selon les premiers témoignages, des tirs dans la commune de Bounti seraient venus d'un hélicoptère. Ils auraient tué une vingtaine de personnes. Les militaires français, eux, parlent effectivement d'un assaut de l'armée dans ce secteur pour neutraliser, c'est le terme, des dizaines de combattants djihadistes, le tout dans une zone difficile d'accès. On y reviendra largement dans notre journal de 7h. Un vaste coup de filet anti-opposition à Hong Kong. Ce matin, une opération de police a entraîné l'emprisonnement de plus de 50 activistes pro-démocratie dans l'île, et notamment un avocat américain. Une répression menée au nom de la loi de sécurité nationale pour subversion. C'est la plus vaste opération de répression menée depuis que Pékin a imposé en juin dernier cette loi répressive dans l'ancienne colonie britannique. Tension diplomatique entre l'Iran et la Corée du Sud. Hier, Téhéran a accusé Séoul de retenir en otage 7 milliards de dollars de fonds iraniens. La veille, l'Iran avait saisi un pétrolier sud-coréen dans les eaux du Golfe, un pétrolier qui aurait, selon les autorités, enfreint les lois sur l'environnement marin. Séoul demande donc la libération du navire et de ses 20 hommes d'équipage. Les explications de notre correspondant sur place, Nicolas Roca.
Le Hankook Chomi est le premier navire saisi par Téhéran depuis plus d'un an et la manœuvre pourrait avoir un objectif précis. L'Iran accuse la Corée du Sud de retenir depuis fin 2019 7 milliards de dollars de fonds qui lui appartiennent du fait des sanctions américaines. Si la République islamique assure que la saisie de la vingtaine de membres d'équipage et des 7200 tonnes de produits chimiques du pétrolier ne sont pas une mesure de représailles, elle affirme que le gouvernement de Corée a pris en otage sans raison valable ces fons. Selon la version officielle des gardiens de la Révolution, le bateau aurait été coupable de pollution chimique, des accusations rejetées par l'opérateur du navire. En Corée du Sud, la télévision montrait ce mardi au moins 5 vedettes aborder le pétrolier en route pour les Émirats arabes unis. Ce regain de tension dans la zone intervient alors que le vice-ministre des Affaires étrangères sud-coréen, Cho Jong-kun, doit se rendre la semaine prochaine à Téhéran. Un navire de guerre sud-coréen s'est déplacé hier à proximité dans la zone stratégique du détroit d'Ormuz, où transitent 70% des importations de pétrole du pays. Séoul opte pour l'instant pour la voie diplomatique. Le ministère des Affaires étrangères s'est refusé à tout commentaire sur les désaccords entre les deux pays sur la question des fonds. mais a annoncé qu'une délégation gouvernementale sera envoyée le plus tôt possible à Téhéran.
Nicolas Roca à Séoul. Le temps de ce mercredi, gris, froid et neigeux par endroits. Attention, verglas ce matin sur la façade ouest et le sud du pays. Le temps sera plus sec avec quelques éclaircies. Le soleil parviendra également à s'imposer dans le sud-est. Il fait toujours assez froid ce matin avec des minimales proches de 0 degré sur la moitié nord. Les maximales seront stationnaires, comptées cet après-midi de 1 à 9 degrés du nord au sud.